Donc, je rappelle qu'Éric Pinault a un doctorat en sciences économiques et en sociologie de l'École des hautes études des sciences sociales de Paris. Et il est professeur au département de sociologie, directeur de la chaire de recherche du Canada sur la mondialisation, la citoyenneté et la démocratie, membre du collectif d'analyse de la financiarisation du capitalisme avancé. Alors, on est très, très honoré de t'avoir avec nous. Maintenant, si ta conférence pouvait porter sur le sortir du capitalisme fossile, nous expliquer ce que tu entends par capitalisme et fossile et ce que ça veut dire pour la société canadienne dans l'immédiat, parce que ta proposition, c'est d'en sortir immédiatement, et aussi la société québécoise, parce qu'on sait qu'on, tout le monde, en tout cas, on est dépendant, en particulier aussi, il y a des grosses installations dans l'est de Montréal. Donc, sortir immédiatement, ça n'a pas juste des conséquences en Alberta, mais ça en a aussi au Québec. Donc, à toi la parole.
Je vais rapidement présenter un argument qui a été élaboré dans le cadre d'un article dans Relations. C'est des gens de Relations qui m'ont demandé de faire cette réflexion sur comment sortir du capitalisme fossile. Alors, c'était avant la crise, avant le COVID, en fait, que cette réflexion a été faite. Mais déjà dans un contexte où le prix du pétrole subissait les pressions baissières. Ça, c'est important comme contexte pour présenter l'argument. Alors, je vais faire ça en trois temps. Rapidement, je vais faire premièrement un peu la conjoncture des énergies fossiles. Deuxièmement, la question, je dirais, de la production. Donc, le modèle albertain, et finalement, la question de la consommation, donc, au Québec. Et donc, comment sortir du capitalisme fossile, des deux côtés de cette équation-là, production et consommation. Je vais commencer par la conjoncture. Bon, vous la connaissez, je vais aller rapidement, là, mais il y a deux éléments, je pense, importants. On a, d'une part, dans un plus un moyen terme, des engagements de la part de beaucoup d'États pour diminuer, réduire ou même sortir carrément des énergies fossiles. Et on a en même temps, à plus moyen terme aussi, une conjoncture de surproduction de pétrole qui relève à la fois de rivalités géopolitiques entre l'Iran, les pays de l'OPEP et la Russie et l'Amérique du Nord, et surtout les États-Unis qui sont devenus un producteur très important de pétrole, de schiste. Et donc, c'est venu créer une situation de surproduction chronique date d'avant COVID, là, c'est quelque chose qui est en place depuis au moins depuis 2014-2015. Et c'est cette rivalité à la fois économique et géopolitique qui organise finalement la conjoncture à moyen terme pour les hydrocarbures. Et ça crée un en termes de prix, ça crée des pressions toujours à la baisse sur les prix. Cette situation-là est importante pour comprendre comment penser sortir du capitalisme fossile. Les prix bas ont des effets de très contradictoires. D'une part, ça fait que les énergies fossiles sont capables de maintenir une certaine concurrence vis-à-vis des énergies renouvelables, donc en fait de chasser les énergies renouvelables ou de ralentir le déploiement des énergies renouvelables. Ça, c'est particulièrement vrai pour la question du gaz naturel, mais ça l'est aussi pour le pétrole. La deuxième, par contre, l'autre aspect, c'est que les prix à très bas, on punisse finalement les producteurs qui ont des coûts très élevés. Et le Canada fait partie des producteurs qui ont les coûts les plus élevés au monde pour le pétrole. Pas pour le gaz, mais pour le pétrole. Notre structure de coûts, elle est très, très, très élevée. On est dans les plus élevés au monde. Et donc, on se trouve à être puni dans cette conjoncture. Alors ça, c'est comme un peu un background. Après ça, deuxième aspect, je dirais, rattaché à la COVID. Dans le fond, qu'est-ce que la COVID? Bon, on le voit là, l'Alberta est en crise, le secteur est quasiment fermé, là, ils ne peuvent pas produire de manière rentable au prix actuel. Mais c'est intéressant de dire, c'est quoi que la COVID représente comme choc sur l'économie pétrolière canadienne? Dans le fond, la COVID, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle enlève le déplacement des personnes. Il n'y a plus de déplacement qui se fait en utilisant du pétrole. La deuxième chose que la COVID fait, c'est qu'elle ralentit de beaucoup la circulation des marchandises, tant en camion qu'en bateau. Et troisième effet de la COVID, c'est une implosion des vols d'avion. Ces trois éléments-là, c'est-à-dire la fin du déplacement des personnes dans les pays du centre, là, on parle, là, la fin des vols d'avion et le ralentissement du commerce des marchandises. C'est à peu près l'effet qu'aurait la mise en œuvre des politiques climatiques. Si les États étaient sérieux dans la mise en œuvre de politiques climatiques, eh bien, on aurait exactement le même choc de demande. Dans le jargon là, des gens qui étudient ces questions-là, on appelle ça un pic de demande. Pendant très longtemps, on pensait le pic pétrolier en termes de pic d'offres. On était pour manquer de pétrole sous terre. On voit qu'avec les gisements non conventionnels, c'est fou, là, il y en a plein. Mais on sait qu'on est peut-être face à un pic de demande. Et ce pic de demande-là pourrait être accéléré par des politiques climatiques robustes qui viennent finalement décarboniser la façon dont on se déplace, la façon dont on déplace les marchandises. Et, ça aurait, et la façon dont on génère l'électricité et d'autres formes d'énergie et tout ce cocktail-là, finalement, c'est à peu près ce que la COVID fait. Donc, en fait, on vit en accéléré ce qui va ou ce qui risque de se produire si tout va bien sur un horizon de 20 ans. Et donc, ça, c'est comme un élément diagnostique, je pense, important à faire valoir. Ça allait déjà mal avant la COVID et la COVID ne fait que révéler ce qui va arriver. Alors, dans ce contexte-là, le secteur pétrolier est très fragilisé et il y a beaucoup de pression pour un plan de sauvetage. Je vais peut-être revenir dans les questions, si vous voulez, qu'on discute du plan de sauvetage, mais c'est un contexte où on peut avoir une discussion, je crois, sur la nationalisation du secteur. Il faut savoir que les 5 plus gros extracteurs des sables bitumineux contrôlent à peu près 80% des volumes qu'on produit. Donc, c'est nationalisé à peu près 5 grandes entreprises, finalement, qui prennent le contrôle du secteur. 2 entreprises qui transportent les liquides, ça c'est TC, l'ancienne TransCanada, et Enbridge. Alors, avec ces 7 entreprises-là, on prend le contrôle du secteur. Et à partir de ce moment-là, on peut penser la planification de la fermeture du secteur sur un horizon de 10 ans peut-être, de 15 ans, et penser la transition des travailleurs vers d'autres secteurs, et penser aussi le développement en Alberta d'une certaine diversification économique qui permettrait de réduire la dépendance sur ce secteur, seul secteur-là en Alberta. Le montant que prendrait un plan de transition de ce type, c'est à peu près ce que l'industrie demande. C'est les 20 à 30 milliards que l'industrie demande depuis 2 semaines. Et donc, il y a des voix au Canada anglais très fortes qui demandent à ce que cette aide-là serve à cette transition rapide, à cette fermeture des sables bitumineux. Donc, je pense qu'on peut nous joindre nos voix à cette politique. Maintenant, au Québec, on est des grands consommateurs d'hydrocarbures, comme partout ailleurs en Amérique du Nord. 50% de notre énergie, à peu près, là, c'est un peu moins, là, c'est 48, me semble, vient d'hydrocarbures, gaz et pétrole. Le pétrole, c'est essentiellement pour le déplacement des personnes, le déplacement des machineries et de manière un peu moins importante pour la production de plastique, mais l'essentiel de notre consommation, elle est rattachée au déplacement. Et donc, si nous, on avait à sortir des hydrocarbures, en ce qui a trait au pétrole, ça serait de sortir de notre dépendance pour le transport. Et en ce qui a trait au gaz, là, on a des usages industriels et on a des usages domestiques ou institutionnels, donc du chauffage, mais sinon, on a des usages industriels. L'essentiel de ces du secteur gaz, c'est une entreprise qui s'appelle maintenant Énergib, qui s'appelait dans le temps Gaz Métro. Alors, encore là, la politique doit être une politique de nationalisation d'énergie. C'est une entreprise dont le capital est détenu par la Caisse des dépôts et placements et par Enbridge. Et Enbridge elle-même est détenue par des grands investisseurs institutionnels canadiens, dont la Caisse des dépôts et placements, mais aussi les grandes banques et les grands régimes de retraite. Donc, c'est déjà pas mal socialisé comme capital. Là. Donc, de passer à une socialisation privée vers une socialisation publique, ça pourrait se faire. Et comment penser l'accélération de la réduction de notre dépendance sur le pétrole dans la conjoncture actuelle? Bon, on estime que l'intervention pour la relance on parle pas de l'intervention pour stabiliser l'économie, mais l'intervention économique pour la relance, qui va commencer là, à partir du mois de juin, juillet, août. Roger en parlait déjà, là où on va commencer à faire le ménage entre les politiques qu'on a mis en place pour sauver les meubles et les politiques qu'on veut pas durer. On estime que l'effort qui doit être fait en Amérique du Nord est d'à peu près 10 % du PIB. Ça, c'est l'effort que les gouvernements doivent faire aux différentes échelles. Pour mettre ça en perspective, là, en 2010, c'était 4 % du PIB qu'on a dépensé. Donc, c'est un effort immense. C'est quelque chose qui ressemble à un effort d'après-guerre ou même un effort de guerre en termes de dépenses structurantes. Et donc, il y a vraiment une opportunité politique à saisir. Avec ce niveau-là de dépenses, on peut penser des politiques de transformation rapide, d'accélération de transformation en cours. On peut être très ambitieux, je pense. Il s'agit de définir finalement la relance. C'est ce qu'on a essayé de faire au Front commun. Là, puis je sais qu'il y a beaucoup de gens à QS qui sont au Front commun. Et nous, le mot-clé qu'on essaie d'imposer, il y a un premier mot-clé qui est l'éco-conditionnalité. Je pense que celle-là va être assez facile. Le deuxième mot-clé qui va être plus difficile, mais je pense que là, le réseau que vous êtes bien placé, je pense, va porter cette idée-là, c'est la planification sociale. La planification économique de la transition. Il faut développer les outils de planification pour pouvoir mettre ça dans les mains du marché. Il faut, tout comme on a planifié le retour à une économie de paix en 45, 46, 47, il faut utiliser la même type d'approche pour planifier la transition. Il faut que ce mot-là devienne un mot qui est porteur d'une vision. Donc, moi, je pense que là, il y a vraiment une offensive sur le plan idéologique sur cette idée de planification. Alors, planifier l'accélération de la sortie des hydrocarbures avec des nationalisations stratégiques et avec des investissements socialisés stratégiques. Je pense que là, après ça, le programme de QS a tous les éléments là, dans votre programme pour traduire ça en politique concrète. Moi, la ligne que j'essaie de développer, puis je vais terminer là-dessus, puis avec tout ce que je viens de dire, on n'est pas sorti du capitalisme, hein, on est juste sorti du fossile. Ça, vous le savez, là, mais bon. Mais la ligne qu'on essaie de développer, c'est que... dans les années 30, puis dans les années, début des années, fin des années 40, début des années 50, le niveau de dépenses publiques qu'il y a eu pour relancer a défini le 20e siècle, la deuxième moitié du 20e siècle. C'est les réseaux d'autoroutes, c'est les banlieues, c'est les centres d'achat, c'est un paquet de technologies militaires qui sont devenues des technologies civiles, c'est l'aviation moderne, etc. Et là, on se dit, le niveau de dépenses qui va être nécessaire pour nous sortir de la dépression économique dans laquelle on est, risque de définir les 50 prochaines années. Et il faut marteler ça et dire, donc, il faut penser la relance en termes de cette capacité de structurer les 50 prochaines années. Ça nous amène dans nos cibles. C'est les cibles du gouvernement, là, c'est même pas les nôtres. Là. Ça nous amène dans toutes les cibles de tous les gouvernements qui parlent de carboneutralité. Tout le monde parle de 2040, 2050. Bien, ce qu'on va faire aujourd'hui, on ajoute 30 ans, ça nous amène là. Et donc, c'est ce qu'il faut dire... en termes de débat public, que à 10 % du PIB, tu es en train de définir les 30 prochaines années. Alors, on ne peut pas être trop ambitieux dans ce contexte-là. Bon, je termine sur la question du capitalisme. Le degré de socialisation, le degré de nationalisation, le degré de prise de transformation du régime de propriété, des mécanismes de coordination, les types d'entreprises, on martèle beaucoup aussi au Front commun, il faut que ce soit des entreprises d'économie sociale, le modèle d'économie sociale ou des entreprises publiques qui soient les entreprises par lesquelles, les véhicules par lesquels on fait cette relance. C'est une façon d'attacher la relance à une socialisation le plus loin possible de l'économie. C'est ça qui va déterminer la façon dont la distance qu'on va prendre par rapport au capitalisme.